Bon, bah, on fera avec. Alors, donc on m'avait demandé d'écrire un article, je ne me rappelle plus la revue, mais j'avais gardé l'article. On m'avait demandé comment un juif lit la femme adultère. Alors, je vais vous proposer le lire, ou en tout cas donner une lecture un peu rapide. J'avais dit entre parenthèses que dans ce passage donc de Jean où Jésus est appelé maître et que là on pouvait peut-être dire que il était appelé rabbi, c'est le signe textuel qui était appelé rabbi. Donc comment la tradition juive lit, interprète la femme adultère, pour peu bien sûr que la tradition juive ait quelque chose à dire ou s'engage dans cette lecture des évangiles, en particulier de la femme adultère. Alors, je ne réponds pas forcément pour ce qui vient d'être dit, mais de façon plus générale, comme je l'avais écrit. D'abord sur la forme, donc répondre sur la forme, et ensuite sur le fond. Alors, bon, sur la forme, la difficulté pour beaucoup de juifs, et notamment de juifs religieux, de lire sereinement les évangiles provient du fait que les scribes et les pharisiens, de manière indistincte et globale, sont présentés comme des fondamentalistes de la lettre, et d'autre part comme des comploteurs qui ne cherchent qu'à tendre des pièges à Jésus. Bien qu'il y ait toujours existé une orthodoxie, ou plus précisément une orthopraxie, par trop légaliste, réduire le judaïsme, même celui de l'époque de Jésus, à ce qu'en disent les évangélistes, est par trop réducteur, subjectif et partial, et sans doute contraire à l'esprit du judaïsme. Celles et ceux qui connaissent peu ou prou le judaïsme savent qu'il se veut une tradition de l'interprétation, du polysémisme, du lire aux éclats, comme le livre de Marc-Alain Ouaknine, et que tout verset dit plus que ce qu'il dit. Et c'est pourquoi, par exemple, le sermon sur la montagne fait tout à fait écho dans la maison d'études d'Israël. Car Jésus, me semble-t-il, ne remet pas en cause de manière antithétique le commandement tu ne tueras pas, pour citer ce passage, mais il veut nous mettre en garde contre les insultes agressives ou ces petits meurtres entre amis quand on dénigre l'autre au point de ruiner sa réputation ou sa moralité. Je pense par exemple à des suicides d'adolescents à cause des rumeurs sur Facebook. Ça devient ici Facebook émissaire. Il suffit de relire ces petits traités des grandes vertus des chapitres des Pères, Pirkei Avot, hein, voilà, dont certains maîtres cités vécurent avant Jésus, pour nous trouver dans une atmosphère totalement différente, celle présentée par les évangiles, ces maîtres qui aussi étaient habités par la bienveillance, la générosité et le souci de l'autre. Mais sans doute du fait des conflits naissants entre la synagogue et l'Église, les évangélistes ont-ils voulu simplifier, et je dois dire parfois jusqu'à la caricature, l'image des docteurs de la loi, mais trop de simplification n'est-il pas préjudiciable à la recherche de la vérité, faite de nuances et de subtilités? En tant qu'héritier du Concile Vatican II, initié indirectement par l'historien Jules Isaac et son enseignement du mépris, et par le bon pape Jean XXIII, il nous paraît important de poser un regard critique sur cette description, par trop réductrice des pharisiens. Et retrouver les racines juives du christianisme, cela implique de connaître le judaïsme historique, le judaïsme sociologique, tel qu'il a été vécu et tel qu'il continue d'évoluer. Et s'il est vrai que le judaïsme est une religion normative, du fait de la loi de Moïse, il a offert aussi des rabbis hautement sensibles à l'amour du prochain, à la miséricorde, autant qu'à l'amour de Dieu. Alors pour le fond, il s'agit ici d'un cas d'adultère, faute condamnée. Donc, comme le père Michel a rappelé à travers les références ici du Lévitique, mais déjà donc dans le Décalogue, l'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère, Exode 20, 12, répété dans le Deutéronome, dans la loi de Moïse. Avant d'analyser le cas de l'adultère, revenons à l'un des grands principes de base de la société hébraïque, la justice, le tzedek au masculin et la tzedaka au féminin. Il s'agit là d'un des piliers du monde, comme l'ont souvent enseigné les prophètes ou les livres de sagesse. Déjà, cette notion constitue le fondement de l'enseignement d'Abraham, comme il est dit dans Genèse 18, 19, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui de pratiquer la charité, tzedaka, ou mishpat, et le droit. Puis, dans le Deutéronome de Moïse, de Josias, selon les historiens, Deutéronome 16-20, tzedek, tzedek, tirdof, justice, justice, tu poursuivras. Selon l'interprétation rabbinique, cette répétition justice, justice enseigne que cette poursuite doit se faire dans tous les domaines de l'existence, aussi bien dans le domaine religieux que dans les rapports humains, économiques, politiques ou sociaux, aussi bien par l'individu. Par exemple, dans Deutéronome 25-14, le commerçant n'aura pas deux poids, deux mesures sur son étal, que pour les juges en charge du bon ordre de la cité. En instaurant des juges reconnus et compétents dans toutes les villes, Deutéronome 16-18, la Torah veut évacuer tout esprit de vengeance individuelle ou clanique, ce qui exclut un jugement par la populace ou par un individu isolé. C'est au cœur d'une cité juste et pacifiée que la présence divine pourra totalement résider et rayonner dans le cœur de chaque homme. Dans la société biblique, une loi existe qui, pour le croyant, procède de Dieu, et celle-ci envisage la peine de mort dans des cas de transgression considérés particulièrement graves pour le maintien de la société. Une société où le religieux, le social et le politique sont intimement liés, bien que les pouvoirs qui les incarnent doivent être absolument séparés. Parmi les fautes qui encourent la peine de mort, citons le viol, le kidnapping, la violation publique du Shabbat, le meurtre avec préméditation, l'inceste et l'adultère. Ajoutons également qu'il existe quatre modes d'exécution. La lapidation, la plus connue, mais le feu, donc le bûcher, l'épée, le glaive, et la pendaison, strangulation. Bien entendu, il faut nous mettre dans l'état de conscience civilisationnelle de la société antique et ne pas juger avec nos critères contemporains. Ces peines ont-elles été appliquées ? Oui, la Torah cite deux cas de lapidation contre un blasphémateur, en Lévitique 24-14, et un profanateur du Shabbat, en Nombre 15-32. Plus tard, le Talmud citera quelques cas de peine de mort appliquées au temps du royaume judéen des Maccabées, c'est-à-dire quand la Judée ne fut occupée ni par les Grecs ni par les Romains, en considérant que les Romains occupèrent la Judée à partir de -63 avec l'arrivée des troupes de Pompée. Nous pouvons considérer que des exécutions de mise à mort étaient beaucoup plus difficiles. Indépendamment des faits historiques, nous lisons dans le Talmud que les pharisiens de l'époque du Second Temple, par une prise de conscience morale honorable autant que souhaitable, parce que bien sûr la peine de mort pose un cas de conscience pour le moderne que nous sommes, donc les rabbins, à l'époque du Deuxième Temple, élaborèrent toute une procédure extrêmement précise pour rendre impossible l'application concrète de la peine de mort. Donc je vais citer quelques grands principes rapidement. La mise en place d'un tribunal de 23 juges, et non pas de 3 juges comme pour les affaires d'argent, des juges qui sont compétents, ni trop jeunes, car en manque d'expérience, ni trop vieux, par peur d'un certain rigorisme, tous pères de famille, pour ne pas oublier que l'on juge une personne dans une filiation. Deuxièmement, examen méticuleux et séparé des témoins dont les formulations doivent concorder en tout point. Troisièmement, au moment du verdict, ce sera le plus jeune qui donnera son avis, le plus âgé donnant le sien en dernier, afin d'éviter le jeu des influences. Quatrièmement, si un membre du tribunal a pris la défense de l'accusé, il ne pourra plus changer de position, même si en écoutant les autres membres, il se convainc de la culpabilité du prévenu. Par contre, un accusateur peut toujours devenir un défenseur, mais ne pourra pas revenir en arrière, car le défenseur, le sanégore, comme on dit dans le Talmud, ne peut pas devenir catégore. Le défenseur ne peut pas devenir accusateur. Cinquièmement, même dans le cas où la peine de mort avait été prononcée, le grand Sanhédrin de 71 membres devait donner son aval afin de vérifier l'absence de tout vice de forme ou de toute pression sociale ou politique. Sixièmement, autre principe fondamental, les aveux de l'accusé n'ont pas de valeur. En effet, les aveux de quelqu'un qui s'accuse d'un crime pouvant entraîner la peine de mort, ces aveux seraient assimilés à une volonté suicidaire et donc irrecevables. Septièmement, dès que l'ombre d'un doute plane sur une affaire, le tribunal doit reconnaître son incapacité à trancher, il doit se récuser, s'abstenir et renvoyer le cas à l'instance supérieure, à savoir Dieu lui-même. car il vaut mieux ne pas prononcer de verdict plutôt que d'assumer le risque d'une erreur, même infime, et condamner un innocent. Ajoutons cette idée originale du Talmud, si une personne est condamnée à mort par l'ensemble d'un tribunal, sans une seule voix pour le déculpabiliser, alors cette personne est considérée comme innocente et rendue à sa liberté. On voit donc jusqu'à quel point les docteurs... Oui, parce qu'à ce moment-là, si tout le monde condamne, et s'il n'y a pas une seule voix pour défendre, alors le Talmud dit, ben c'est Dieu qui le défend. Ce n'est pas possible que dans un tribunal, il n'y ait pas une personne qui trouve une circonstance atténuante. Donc si tous les membres du tribunal condamnent, la personne est acquittée. On voit donc jusqu'à quel point les docteurs de la loi ont poussé le scrupule éthique, obsédés qu'ils étaient par l'erreur judiciaire et la condamnation de l'innocent. Pour conclure sur ce sujet, je citerai cette Mishnah, donc traité Makot, l'avis d'un maître. Tout tribunal qui condamnerait une fois en 70 ans sera appelé tribunal sanguinaire. Donc en conclusion, à défaut d'annihiler la loi biblique, les rabbins ont posé tant d'exigences concernant la peine de mort qu'elle a été de facto abolie. Ainsi s'accomplissait à leurs yeux le verset du prophète Zacharie, chapitre 8, 16 et 17. « Voici ce que vous devrez faire, parlez loyalement l'un à l'autre, rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes, ne méditez dans votre cœur aucune méchanceté l'un contre l'autre, n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les hais, dit l'Éternel. » Quid alors de ces versets mentionnant la peine de mort dans la Torah ? Il souligne surtout, comme a dit le père Michel, il souligne surtout la gravité de la faute qui l'entraîne. Bon, c'est le cas de l'adultère. Alors l'adultère s'oppose à la sanctification du mariage, appelé en hébreu kiddushin, kadosh, donc la sanctification, et au principe originel de monogamie et de monoandrie, un seul homme, une seule femme, un seul couple. Dans la société patriarcale biblique, la femme est consacrée à son mari, et non le contraire. Bon, ce qui est peut-être scandaleux aujourd'hui, mais bon, c'est la société patriarcale. Bien qu'idéalement, la consécration devait être réciproque selon la volonté du Créateur, qui crée Ève pour Adam et Adam pour Ève, en Genèse 2,18. Cette union est si importante que Shammai, un maître rigoriste qui vécut quelque 30 ans avant Jésus, s'opposera au divorce, hormis en cas de libertinage, contrairement au verset biblique l'autorisant en Deutéronome 24,1. Cet interdit ne concerne pas qu'Israël, l'adultère, mais selon la Torah, il appartient à la morale universelle, ou loi noachide, comme il ressort de l'épisode de l'enlèvement de Sarah par Abimélec, quand Dieu déclare au roi de Philistie, Genèse 23, « Te voici mort, Inéchamet, te voici mort, à cause de cette femme que tu as prise, qui est Béroulat Baal, qui est en puissance de mari. » Donc, tu es en train de commettre un adultère, dit Dieu à Abimélec, alors que la loi du Sinaï n'a pas encore été donnée. Il ressort d'ailleurs de cet épisode que la mise à mort n'est pas appliquée par les hommes, mais par Dieu lui-même. Te voici mort. Tout d'abord parce que les matrices des épouses royales sont rendues stériles, ce qu'on découvre à la fin du verset. Dieu avait fermé les matrices au chapitre Genèse 20-18. Et plus subtilement, que la mort correspond à la désobéissance à la volonté divine, comme cela ressort déjà de la faute d'Adam et Ève. En d'autres termes, chaque fois que l'humain s'éloigne de Dieu, il meurt, spirituellement, on pourrait dire. C'est la vie qui intéresse la Bible ici, et pas le biologique. Mais chaque fois qu'il revient vers Dieu, il revient à la vie, comme l'enseignera par exemple le prophète Ézéchiel au chapitre 18. Donc voyons à présent comment cet interdit universel est exprimé par la loi de Moïse, donc je n'ai pas besoin de le redire. Puisque vous avez ici les deux références, Lévitique 20 et Deutéronome 22. Alors, par rapport au Lévitique 20, donc je dis par rapport à la question qu'a posée le Père Michel, le texte dit, donc si un homme adultère avec une femme, avec la femme d'un homme qui adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultèrent, il mourra. C'est marqué au singulier. Mourir, il mourra. Mot yumat. L'homme adultère et la femme adultère. Alors de là, le Talmud déduit qu'on ne peut tuer la femme que si d'abord on exécute le mari. Parce que le verset est au masculin. Il mourra. Et donc lui d'abord et elle ensuite. Et tant que lui n'est pas exécuté, la femme ne peut pas être exécutée. Donc c'est ce que dit donc le...
Je suppose que c'est pas le mari, mais celui avec lequel elle a
commis l'adultère. Oui, pardon, l'adultérin, voilà. L'adultérin, oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous donner quelques remarques. Alors, si je veux pousser jusqu'au bout la lecture rabbinique, hein, avec toute la jurisprudence et la méticulosité des rabbis du Talmud, qui peut toujours nous surprendre, c'est que dans le cas d'un adultère, les rabbins disent que c'est pas par lapidation, mais par strangulation. Et que c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une femme fiancée qui n'a pas encore connu de mari, que c'est par lapidation. Donc on pourrait peut-être penser dans ce cas de figure que c'est une femme qui est fiancée. Et ça peut nous renvoyer d'ailleurs au début de Matthieu, lorsque Joseph et Marie sont fiancés, ils veulent la répudier. Donc on voit qu'à l'époque du Talmud, enfin déjà à l'époque du deuxième temple, les fiançailles étaient considérées comme une forme de mariage. C'est pourquoi dans la tradition juive jusqu'aujourd'hui, sous la choupa, sous les deux nuptiales, il y a deux kiddouches, ça veut dire il y a deux bénédictions sur le vin, une pour ce qu'on appelle les fiançailles, si vous voulez, qui correspondait à l'époque du deuxième temple, comme dans le récit de début de Matthieu, hein, à des fiançailles. Joseph est fiancé avec Marie, hein, et ces fiançailles sont déjà engagements. Ça appelle donc aussi une répudiation. Une répudiation de fiançailles ou une répudiation après mariage, donc s'il y a consommation. Voilà. Donc les rabbins font ce distinguo en fonction du statut de la femme, si elle est mariée ou si elle est fiancée, selon ce qu'exprime le texte du Lévitique.
Il faudrait peut-être dire promise en mariage.
Oui.
Parce qu'on entend davantage le terme de mariage que fiançailles qui aujourd'hui. N'a plus la même force.
Oui.
Une promesse dans la Bible est quelque chose qui est sûr.
Voilà.
Et le rompre, c'est quasiment divorcer. Enfin, c'est divorcer puisqu'il y a une lettre de divorce.
Voilà. Alors bon, en hébreu, on a le terme de kiddushin et de nisuin. Donc il y a une sanctification, elle est consacrée. Et nisuin, c'est sans doute qui est à l'origine du mot nos, d'ailleurs. Nos, vous entendez nos comme nisuin, qui veut dire élévation. C'est-à-dire c'est une consécration et une élévation. Donc voilà pour donner quelques éléments. Alors comment pouvons-nous entendre le récit de la femme adultère? Alors on pourrait dire que par-delà le fait d'histoire, comme l'a suggéré le père Michel, eh bien c'est que ça pourrait être entendu comme un cas type, ce qu'on appelle en hébreu un binyan av. Ça veut dire en fait un cas. Qui est présenté à Jésus, bien qu'il soit difficile du point de vue de la lecture juive d'imaginer qu'on demande à un érudit, à Jésus, entendu comme un rabbi, de trancher pour un cas de mise à mort. Du point de vue du judaïsme, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait 23 juges qui soient réunis, qu'on entende les témoins, que les témoins soient entendus séparément, qu'on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre leurs... Voilà, donc ça pose un problème. Donc c'est pourquoi, en effet, il s'agirait peut-être d'un cas type, comme si on demandait à Jésus qu'est-ce que on ferait dans ce cas de figure. Voilà. Alors à ce moment-là, oui, c'est comme dans la maison d'études. Et moi, je voulais pousser jusqu'au bout. Je disais peut-être que c'est en fait la leçon qu'il est en train de donner dans le temple au moment où il enseigne. C'est-à-dire voilà, c'est un cas type que si on pose cette question, comment on répond? Alors l'attitude de Jésus, en fait, Jésus n'ignore pas la loi de Moïse, donc il ne veut toucher ni un iota, ni le trait d'un iota, comme il dit au début du sermon sur la montagne, ce Moïse qui lui apparaîtra d'ailleurs lors de la transfiguration, en Matthieu 17. Il sait qu'il est impossible de condamner à mort, même une femme adultère, sans tribunal, sans l'écoute des témoins, sans la procédure mentionnée. Cette femme est-elle vraiment adultère? Il faudrait être sûr, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un viol? Donc où est la question, où est l'homme? Voilà. Donc Jésus va agir en excellent pédagogue tout en respectant la Torah. Plutôt que d'affirmer comme la Mishnah, tout tribunal qui condamnerait à mort sera appelé tribunal sanguinaire, il va refroidir l'ardeur de cette foule quelque peu hystérique, enfin, c'est des rabbins en fait, hein, c'est des pharisiens et des scribes, hein, hystériques, renvoyant chacun face à ses responsabilités en disant que celui qui n'a jamais fauté donc jette la première pierre. Formule idéale pour ne pas toucher un iota de la loi mosaïque, tout en rappelant que l'homme ne peut faire couler le sang hors d'un cadre légal. Il réussit ainsi à éviter un lynchage inévitable. Pour faire un parallèle, vous rappelez l'attitude de Aaron devant le peuple qui demande un dieu, n'est-ce pas, et qui, lui, ne peut pas prendre frontalement le peuple, le Ham, d'ailleurs, qui est ici dans le texte de l'Exode, et qui dit, bon, bah, apportez-moi les bijoux des femmes, etc., en espérant qu'on gagnera un petit peu de temps. Et puis, une fois qu'ils apportent les bijoux, elle dit, bon, alors on va faire un autel, et demain, on fera la fête, etc. Donc, Jésus aussi ne répond pas de manière frontale, mais avec le sens de la formule qui lui est vraiment très originale, que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Donc en même temps, nous voyons que pas un iota de la loi de Moïse ne passe, hein, et on évite ici un lynchage collectif. Alors peut-être que, idéalement, il faudrait toujours un tribunal de 23 membres, mais entre ce que dit la loi et puis ce qu'une populace en furie réalise, des fois, hier et aujourd'hui, des exemples nombreux nous sont malheureusement montrés. Dans son propre langage, d'ailleurs, la Mishnah rejoindra les propos de Jésus, qui affirmera en substance dans le traité Makot que lorsqu'une société connaît un débordement de violence, la peine de mort n'a plus de sens, car elle ajoute violence à la violence. Et lorsque le libertinage se multiplie dans une société, les règles de l'ordalie divine, du chapitre 5 du livre des Nombres, ne peuvent plus être appliquées. On demande à la femme, lorsqu'elle est suspectée d'infidélité, de boire une imprécation, et si elle a fauté, elle meurt de cette eau qui rentre en elle, et si elle n'a pas fauté, au contraire, Dieu bénit ses entrailles. Donc vous voyez, lorsque le libertinage se multiplie dans une société donnée, donc, alors l'ordalie n'a plus de raison d'être. C'est, à la limite, la peine de mort ou le cas d'adultère devrait être un cas unique dans une société, mais si ça se répand, c'est ajouter de la violence à la violence. Et puis, alors, maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'une femme adultère ou une prostituée sont obligatoirement coupables ? Une épouse malheureuse en ménage, séduite par un courtisan ? Une prostituée qui se trouve sous l'emprise d'un proxénète ou qui n'a plus d'autre moyen de subvenir aux besoins de ses enfants. Peut-être comme le père ou d'autres, nous avons rencontré ces cas de figure, hein, qui appellent beaucoup de pitié et de miséricorde, des femmes qui n'ont pas d'autre choix, elles sont trouvées à la rue et sont obligées d'aller vendre leur corps, quoi. Bon. Et Jésus nous apprend aussi à poser un a priori favorable sur les personnes. Comme on dit aussi dans les Pirkei Avot, ne juge personne avant d'être arrivé à sa place. Maintenant, peut-être que ce récit aussi nous interpelle, pour le judaïsme et le christianisme, aux questions de société aujourd'hui, que nous pose la société civile. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un violeur récidiviste? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un assassin récidiviste? Quelle attitude par rapport au terrorisme, etc. Ce sont des questions qui sont posées aussi pour l'équilibre de la vie en société. Je voudrais terminer par une lecture midrashique. Je voudrais donc de ce récit, peut-être que cette prostituée n'est pas seulement une prostituée, mais justement, je reprends ce que dit le père, qu'elle représente aussi le monde des païens, le monde des idolâtres. Parce qu'en effet, très souvent dans la Bible, la référence à la prostitution renvoie à l'idolâtrie, comme on l'a dit, car l'idolâtrie, comme la prostitution, renvoie au refus de la royauté de Dieu. L'idolâtrie, c'est donner le nom de Dieu à autre que Dieu, ou bien la prostitution, l'adultère, c'est la jouissance, en oubliant la présence de Dieu. Et donc, je citais également, donc, convergence, on est bien inspiré tous les deux, le prophète Osée, qui, alors peut-être tu l'as pas suffisamment peut-être précisé tout à l'heure, qu'en fait Osée doit épouser une vestale du dieu Baal, hein, c'est pas n'importe quelle femme, c'est une Kedesha. Kedesha, c'est-à-dire une prostituée sacrée, hein, c'est pas une zona, parce qu'il y a deux termes dans la zona, c'est la prostituée publique, et la Kedesha, c'est la prostituée pour un culte, ici le dieu Baal, n'est-ce pas, qui était la divinité des Cananéens. Donc Osée, qui doit, sur l'ordre de Dieu, épouser cette Kedesha, Gomer, qu'elle s'appelle Gomer bat Divlaïm, fille de Divlaïm. Union qui symbolise l'idolâtrie du royaume du Nord. Donc, en fait, comme le jeu de miroir dont a parlé le père, c'est-à-dire que finalement, Osée prend la condition de Dieu, il a épousé une femme, Israël, mais cette femme, elle veut aller toujours chez ses amants, les amants représentant ici les idoles. Ou bien ce verset de Jérémie, qui s'adressant au royaume du Sud, comme à une épouse infidèle, déclare « Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois ». C'est intéressant ici de voir que Jérémie, il associe l'adultère avec la pierre. La pierre et le bois qui sont des symboles des idoles, parce qu'on les fabrique soit en pierre, soit en bois. Donc la pierre ici symbolise l'idole. Donc Jésus pourrait dire, par allusion à ceux qui connaissent la Bible, et Jésus connaissait parfaitement la Bible bien sûr, « Êtes-vous bien sûr d'être sans faute d'idolâtrie ? Nos ancêtres aussi ont commis la faute du veau d'or, et pourtant Israël est resté dans l'Alliance. Pourquoi ne pas accueillir les prostituées des nations, c'est-à-dire les enfants des nations païennes, qui, s'ils ne pêchent plus, mais reconnaissent le Père, seront aussi les enfants de l'Alliance ?» Cette lecture permettrait d'expliquer cette curieuse attitude aussi. Bon, ben, moi j'ai réfléchi en disant peut-être c'était une forme d'ordalie. Parmi les interprétations, j'ai bien noté, j'ai beaucoup aimé les lectures que font les pères de l'Église. Mais peut-être que d'écrire sur le sable, parce qu'en Nombre 5:23, on dit que le prêtre écrira une imprécation puis l'effacera. Or, écrire sur le sable, c'est aussi effacer. Donc Jésus n'est-il pas ici le grand prêtre qui efface la faute de l'idolâtrie des païens et les ramène vers le Père ? Une piste supplémentaire pouvant corroborer cette lecture nous est suggérée par l'expression « au milieu ». Parce qu'à deux reprises, alors bien sûr je m'appuie sur le fait que les évangélistes ont un substrat biblique. Et le « au milieu » que nous trouvons dans le texte, à deux reprises, en le plaçant « au milieu », au verset 3, et puis ensuite
au verset 9.
Voilà. Or, par un lien contextuel, comme on a l'habitude de faire dans le Midrash, à propos de Rahab, donc Rahab, mais Rahab en hébreu, une autre femme importante dans la généalogie de Jésus, c'est à la prostituée de Jéricho, nous lisons en Josué 6:25, Rahab la courtisane, donc la prostituée, ici c'est Zona, sauvé par Josué avec sa famille et tous les siens, est demeuré au milieu, Bekerev, d'Israël, jusqu'à ce jour. Donc, Rahab est sauvée par Josué, Yehoshua, et la prostituée est sauvée par Jésus, Yehoshua. C'est la même racine. Oshéa d'ailleurs aussi, Osée aussi, c'est la même racine de sauver. Donc, dans un monde qui se replie de plus en plus sur lui-même, cette leçon de Jésus nous interpelle dans notre accueil de l'autre, de tout autre. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà une lecture originale de cet épisode. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Des mains qui se lèvent. Je repasse le micro peut-être pour.
Il y a un micro qui peut se promener.
N'était pas né dans la prostitution. C'est un petit peu ce que vous avez dit, non ? Voilà. Et alors, je voulais dire que, ben, au moins pour la tribu de Judas, Jésus est quand même né de prostitution. Avec Tamar. Tamar, qui était la fille de Judas, était promise au troisième fils de Judas, Shéla, et comme Judas ne voulait pas la lui donner, il l'a renvoyée chez elle. Et elle a piégé Judas en se prostituant à lui, en se voilant, en se cachant. Et il s'est trouvé qu'elle était tombée enceinte. Et Judas, apprenant que sa belle-fille était tombée enceinte, du coup, l'a condamnée et elle devait être tuée. Et grâce à un stratagème qu'elle avait mis au point, elle a pu prouver que c'était Judas qui était...
Oui, elle a montré les cartes de crédit de celui qui avait touché la gueule, son bâton, son seau et son cordon. Voilà.
Il n'y avait pas d'ADN à ce moment-là, donc on ne pouvait pas prouver que les deux petits garçons étaient
En fait, Philippe répondra mieux que je ne le fais, mais la prostitution, Si on lit attentivement ce texte, mais il faudrait l'avoir sous les yeux parce que ce n'est pas le texte qu'on a étudié, la prostitution n'est notée que dans le regard de Judas qui pose sur cette femme. Elle se met à la sortie de la ville, elle s'habille effectivement, mais on nous dit Judas vit une prostituée. Voilà. Et il l'appelle toujours comme ça. Alors qu'en réalité, nous savons que c'est Tamar, c'est-à-dire une bru, une belle fille lésée. C'est-à-dire elle attend que Judas honore son engagement, c'est-à-dire de lui donner son troisième fils. Elle a vu que Sheila était devenu grand et que Judas ne lui avait pas donné. Voilà. Donc elle va utiliser des moyens qui ne sont jamais qualifiés, sinon à travers le regard de Judas. Donc autrement dit, qui désigne autant, enfin peut-être davantage, la manière dont Judas juge, qui est assez rapide dans son jugement, quand il apprend que sa belle-fille est enceinte, il dit qu'elle se brûlait vive, voilà, puisque je ne lui ai pas donné Sheila. Et c'est là où, précisément, l'arroseur est arrosé, puisqu'on lui présente les cartes de crédit et qu'il reconnaît les siennes. Voilà. Donc vous voyez, la question de la prostitution, ça dépend un peu du regard que vous posez. Philippe a évoqué cet épisode de l'Annonciation, où... Le versant de Matthieu où Joseph est dans les troubles de la nuit, hein, devant ce mystère d'une femme qui est enceinte, elle lui était promise en mariage, et c'est pas de lui. Eh bien, d'une certaine manière, mais je dirais, on peut très bien regarder ça, enfin, qui ne regarderait pas ça en se posant la question, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un adultère ou une, voilà, hein. Je dirais que la manière dont nous jugeons les situations dépend à la fois des situations effectives, objectives, que de, je dirais, les exprime aussi votre cœur, c'est-à-dire, vous voyez, vous-même, vous exprimez vous-même. Voilà. La connaissance est toujours une relation entre un objet et un sujet. Et dans le jugement que nous pouvons porter, nous mettons aussi beaucoup de nous-mêmes.
Elle est appelée Zona.
Oui, mais elle n'est appelée Zona que par Judas.
Mais elle se déguise en Zona. Hein, se déguise en Zona. Voilà. Et puis attention, prostituée, c'est pas adultère aussi. Non, parce que dans l'adultère, c'est une situation très particulière. C'est une femme qui, étant mariée, va avec un autre homme. Prostituée, c'est...
Elle a été mariée avec les deux premiers.
Oui. Oui, c'est vrai. Donc, elle se...
Voilà. Effectivement, elle aurait dû épouser Sheila.
C'est exact. Alors, en fait, elle se déguise en Zona, enfin, en prostituée, pardon, et donc il la prend. Voilà, c'est d'ailleurs ce que dit le texte. Il pensait qu'elle était, parce qu'elle était Zona, prostituée, parce qu'elle avait caché son visage. Donc, il faut croire que c'était un signe, justement, par ce voile... qu'elle était prostituée. Hein. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui fait que finalement il la condamne pas ? Parce que là, c'était pas la peine de lapidation, mais c'était la peine du bûcher, hein, qu'elle soit brûlée. Et, dans la loi du Lévirat, enfin, telle qu'on l'interprète dans la tradition, c'est qu'en fait, il est possible d'épouser aussi Judas, mais simplement, il y a Sheila qui précède. Hein, mais dans l'ordre de la... D'ailleurs, ce que dit le texte, c'est que si on n'épouse pas le frère, le premier, on peut épouser le deuxième et le plus proche parent, etc., de façon à ce que le nom du défunt ne soit pas effacé. Donc, quand il apprend que de toute façon, c'est lui, il dit, bah, alors finalement, bon, ok, c'est... D'abord, elle n'est pas coupable, parce qu'elle m'est permise, et c'est ma faute, j'ai tardé à lui donner Sheila, et en même temps, il déclare... à la cantonade, qu'il est coupable. Voilà. Hein. C'est le début du repentir. Enfin, c'est le premier repentant de la Bible. Hein. À deux reprises, c'est Judas. Donc c'est, et plus tard, David. Donc on voit ici qu'il y a l'idée de la repentance dans cette lignée de Judas. Par contre, il y a une autre femme qui, elle, est issue non pas d'une prostitution, mais d'un inceste. C'est Ruth. Parce que la Ruth, elle descend direct de Moav, comme le mot hébraïque l'indique, Me'av, de mon père. Donc c'est-à-dire la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée, et d'ailleurs avec sa fille cadette également, la deuxième, il aura également un fils, Amon, avec lui. Voilà, Amon, ça veut dire avec... avec mon père en quelque sorte, parce qu'elle pense que c'est la fin du monde et qu'il ne reste que Lot et puis les deux filles, voilà, donc elles vont coucher. Et Ruth, donc, descend de Moab. Voilà, mais elle est intégrée dans le peuple d'Israël. Mais ça, c'est intéressant, je pense, donc, dans la généalogie de Jésus dans Matthieu, on cite des femmes, et ce sont des femmes un petit peu hors normes, en tout cas hors de la tradition d'Israël, hein. Justement, peut-être parce que c'est la fonction messianique, ben, c'est de ramener tout le monde. Non ?
Ah oui, voilà. Oui, tout à fait. J'avais un collègue qui, pour attraper les adolescents, leur proposait une lecture de la Bible, et il va dire, aujourd'hui, on va lire la Bible cochonne. Et en fait, il y avait un certain nombre d'épisodes qui allaient depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament là-dessus. Effectivement, les femmes dans la généalogie de Jésus n'expriment pas tout à fait les quartiers de noblesse qu'on pourrait attendre. Voilà. Mais c'est une manière de rassembler effectivement toute l'humanité dans une seule généalogie.
Mais bien sûr.
Moi, je voudrais revenir au texte et dire ce que je ressens de ce texte. Voilà. Les scribes et les femmes viennent. À qui Jésus a se comporté comme un juif. Et lui, non. Lui, il est courbé, il est par terre. Un juge n'est pas courbé, par terre. Et il donne, à mon avis, il pose un acte très juste. Il écrit sur le sol. Et de ce fait-là, si vous voulez, il ne juge pas. Il attend que les autres s'en aillent. Il leur dit, bien sûr, jetterai la première pierre, mais en réalité, il n'a aucun jugement. Et il n'a pas de pierre non plus, puisqu'il est en train d'écrire.
Mais approchez votre micro, même, s'il vous plaît.
Il n'a pas de pierre. Voilà. Il n'a pas de pierre non plus, parce qu'il écrit. Donc il n'a pas de pierre, vous voyez, il ne participe pas du tout. Il est en retrait. Et après, quand les gens sont partis, il est face, toujours courbé, face à la femme. Que j'aime aussi, c'est que la femme n'a pas de nom, elle a un qualificatif, elle est adultère, je suis désolée, mais lui, il la considère comme une personne, et là, il devient un verbe, et il lui parle, mais à la personne, sans la juger, en lui disant, va et ne pêche plus, et c'est le verbe qui parle. Pour moi, c'est ça, c'est Jésus ne veut pas se laisser entraîner par les pharisiens et être jugé, il ne veut pas être jugé.
Alors, j'aime bien votre lecture. Je vais faire un parallèle avec le livre de Jonas. Hein. C'est-à-dire que quand on lit dans le livre de Jonas, il rencontre d'abord des matelots. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc Dieu lui dit va à Ninive, il ne veut pas, donc il s'enfuit. Il va à Jaffa, il trouve un bateau. Et au début, ils sont appelés matelots. Melahim de melar, ça veut dire le sel, parce que les matelots, on les appelle en hébreu les salés. Hein, voilà, parce que ils ont de l'eau de mer sur le corps en permanence. Et à la fin, quand il y a ce grand miracle, il est jeté dans l'eau finalement, que l'eau s'apaise et qu'un grand poisson va l'avaler. Le texte ne dit jamais baleine, mais je sais qu'on dit souvent Jonas et la baleine, on dit le grand poisson. Et à ce moment-là, ils sont plus appelés matelots, ils sont appelés des hommes. Hein, vous voyez, c'est-à-dire, on commence par donner une désignation, et souvent la désignation fait oublier l'humanité. Ça, c'est peut-être aussi une manière de repenser notre rapport au monde. On dit les migrants, on dit les noirs, les juifs, les arabes. Oui, mais ce sont des hommes, d'abord. Hein. Comme disait Primo Levi, si c'est un homme. Donc c'est un homme qui est de telle culture, etc. Et là, je trouvais intéressant que, d'abord, elle est seulement adultère, donc prise dans cette dénomination, mais après il lui dit Isha. Et c'est vrai, en plus, c'est femme, mais ça pourrait être Isha. Et c'est le terme le plus noble qu'on peut s'utiliser dans la Bible par rapport à Ish. Vous voyez, Ish, Isha. Voilà, peut-être que c'est un passage, oui, comme vous dites, de l'adultère à la femme.
Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il lui redonne un statut. Voilà. Au lieu d'être enfermé dans une situation. Et même, vous voyez, c'est assez intéressant d'un point de vue simplement littéral. Hein. Le terme de femme apparaît au verset 3. Ensuite, au verset 4, vous voyez que je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il n'est pas dans le texte. C'est devenu un cas, et d'ailleurs c'est généralisé, c'est un pluriel. Celle-ci, celle-là, voilà, Moïse nous prescrivit de lapider celle-là. Et on retrouve le terme de femme à la fin, mais sans qualificatif particulier, femme, hein, où sont-ils ? Voilà. Toujours délicat, vous dites Jésus ne juge pas, et je vous ai dit oui, sans doute, puisque j'ai cité le verset 15 du chapitre 8 de Saint Jean, qui vient à l'appui et qui serait donc un des motifs pour lesquels on aurait inséré cet épisode, enfin qui favoriserait l'insertion de cet épisode dans le texte de Saint Jean. Hein, moi je ne juge personne. Voilà. Et en même temps, vous voyez bien, on est face à une difficulté qui est... Il y a une situation objective de péché. Alors, on ne juge pas les personnes, d'accord, on juge l'acte lui-même. Hein, on le reconnaît comme mal. Voilà. C'est toujours... On voit bien que dans l'évangile de Jean, par exemple, typiquement, cette hésitation permanente entre « je ne juge pas » et en même temps, il y a un jugement. Même dans l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier, hein, le Père envoyait le Fils dans le monde, non pas pour sauver, pour juger le monde, mais pour le sauver. Et pourtant, il y a un jugement. Le jugement, le voici. Voilà. Alors, c'est vrai que le jugement, c'est une espèce d'auto-jugement, vous voyez. Et là, il est plutôt présenté de manière positive. Vous voyez, en se jugeant eux-mêmes comme incapables, c'est-à-dire dans l'incapacité d'exécuter une sentence, parce qu'ils se sont délégitimés par leur propre péché. Du coup, ils retrouvent une situation, d'abord commune avec la femme, et si elle-même est pardonnée, ça peut être aussi l'annonce d'un pardon qui est pour tous. Voilà ce que je dirais.
Je voudrais ajouter quelque chose du point de vue du judaïsme. C'est vrai que nous avons une fête, une solennité qui s'appelle le jour du jugement, le Yom HaDin, c'est-à-dire le Rosh Hashanah. Enfin, c'est dans la tradition, dans la Bible, c'est pas marqué jour de jugement, ça s'appelait Yom Teruah, un jour de sonnerie. C'est un nouveau mois qui est caractérisé par la nouvelle lune, mais la particularité de ce nouveau mois, c'est justement d'y sonner le chauffard, la corne de bélier, comme on le fait dans les synagogues, selon un rythme de sonorité particulière, des son long, des son brève, des son saccadé. Voilà. Et donc la tradition va considérer que ce premier jour du septième mois, par rapport à la sortie d'Égypte, hein, parce que c'est le point de départ, dans la Bible en tout cas, parce que les mois n'ont pas de nom dans la Bible, ils sont appelés premier mois, deuxième, enfin dans la Torah en particulier. Voilà. Et donc la tradition entend ça comme un jugement, le jugement de Dieu. Bon, je crois que c'est pas forcément contradictoire avec ce qu'on a entendu ici, que Jésus ne juge pas, qu'il a porté le pardon. C'est que du point de vue du judaïsme, la question du jugement, ça souligne davantage la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est appelé à répondre à la question « Où es-tu ? Où est ton frère ?» C'est-à-dire « Bon, qu'est-ce que tu as fait de ton humanité ? Qu'est-ce que tu as fait de ta fraternité ?» Donc c'est autre chose, peut-être qu'on n'est pas sur le même registre, qu'on entend dans la tradition juive le jugement comme une responsabilisation. Finalement, on est dans l'alliance avec Dieu, donc il y a une part aussi de responsabilité de la créature par rapport au créateur. Surtout que dans la tradition juive, on entend ce nouvel an, non pas comme seulement le jugement d'Israël, mais de l'humanité. Il y a des très belles prières d'ailleurs dans le rituel, dans la liturgie. Et puis chaque peuple et chaque homme passe devant le Seigneur comme le mouton sous la houlette du berger. Voilà. Donc peut-être c'est pour éclairer ou donner un autre éclairage. Il ne s'agit pas ici d'un jugement. Voilà, peut-être que Jésus ne veut pas juger. Au contraire, il va jusqu'au bout du pardon. Mais que dans la tradition juive, si on a cette idée cette conception d'un jour de jugement, c'est davantage souligner la responsabilité. Voilà. On est sur terre. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a à faire dans notre quotidien, dans notre vie, les uns avec les autres, comment préparer le royaume de Dieu? Et ça aussi, ça dépend un peu de nous.
Oui, je pense qu'il faut faire attention à la question du jugement, il est nécessaire, hein. Sinon c'est de la guimauve ce que nous présentons. Jugement, juger, ça se dit krino, hein, krino en grec, vous voyez, c'est discerner aussi, c'est être capable de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Je juge tout le temps, hein. Dès que je fais une affirmation, voyez, quand je regarde une situation objective, je juge, c'est toujours présent. Jésus ne renonce pas à dire le mal ou le bien, il le dit d'une certaine manière. Là où il dit « je ne te condamne pas », alors ce n'est pas tout à fait le verbe « krino », même si c'est le même, c'est « katakrino », donc avec un préfixe, hein, qu'on traduit plutôt comme « condamné », effectivement. Mais on lui demande bien de juger une situation, hein, ou plutôt d'émettre une loi, on pourrait dire en quelque sorte. Par exemple, au verset 5, on lit ceci « Dans la loi, Moïse nous prescrivit de lapider ces femmes-là, toi donc que dis-tu » C'est-à-dire, ce qu'on lui demande, c'est une position par rapport à cela, une sorte de prescription. Quelle est la prescription que tu fais ? De même que Moïse nous prescrivit, quelle prescription fais-tu ? Mais c'est évident que juger, c'est une nécessité. Hein.
Qui es-tu pour juger ?
Oui, mais attendez, là, il ne faut pas utiliser n'importe quelle phrase. Je suis pécheur, donc moi, je ne suis pas en mesure de juger correctement. Le pape n'est pas plus... de ce point de vue, est aussi pécheur que chacun d'entre nous. Mais voyez, être capable de juger, c'est bien, comment dire, une perfection à laquelle Jésus nous entraîne. C'est-à-dire, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et le discernement, ce que veut dire aussi Crino, hein, c'est non seulement de dire ça, c'est bien, c'est mal, et puis de l'éviter, le mal, et de faire le bien. Le jugement est une nécessité, sinon il y a une confusion complète. Et c'est toute la difficulté, vous voyez, de cette phrase finale, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Si on s'arrêtait là, eh bien, ce serait injuste. Ce serait tout à fait injuste. Il y a eu un adultère, il y a eu un conjoint blessé, voilà. S'il n'y avait que cela, ce serait insuffisant. » À partir de là, d'ailleurs, c'est « va désormais apotonoun », c'est-à-dire « à partir de maintenant, ne pêche plus ». Ça veut dire qu'il y a vraiment une dénomination qui est accolée au geste, c'est-à-dire la question du péché. Voilà. Et je pense que c'est important parce que sinon, oui, je veux bien la miséricorde, mais sans la justice... Vous voyez, miséricorde et justice sont deux qualités qui sont nécessaires l'une à l'autre. Il y en a sans doute une qui recouvre l'autre, mais sans la justice, la miséricorde ne ressent pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas si
je... Oui, j'entends très bien.
D'autres points. Bah, écoutez, voilà. Alors, je souligne, est-ce que vous me permettez, je souligne ce que Philippe disait au tout départ. Effectivement, je n'ai pas relevé le point, mais tant mieux que Philippe l'ait mentionné. C'est vrai que là, on a des positions très contrastées et que le danger qui a toujours existé, enfin qui existe, hein, c'est de faire des scribes et des pharisiens un bloc de, vous voyez, de malfaiteurs, en quelque sorte, face à un Jésus qui apporterait une solution beaucoup plus respectueuse des personnes. Voilà. Et tout le danger qu'il y a, précisément, à partir de là, d'abord de considérer que c'était là toute la sagesse d'Israël qui était représentée, pas simplement toute la sagesse d'Israël, mais le monde juif qui s'oppose à Jésus. C'est une des difficultés de l'évangile de Jean, où très vite on passe des scribes et pharisiens aux juifs qui cherchent à vous voulez me tuer, dit Jésus. Voilà. On perçoit, d'abord il faut toujours situer ça dans un moment historique. Hein, l'évangile de Jean est le dernier évangile, l'évangile qui est le plus tardif, à un moment sans doute où entre la synagogue et l'église il y a une séparation et donc des invectives mutuelles, hein, que ce soit par exemple dans les Shmoné Esrei, la malédiction des minimes, ou, c'est-à-dire des hérétiques, et inversement du côté chrétien, je dirais une forme de séparation, effectuée ou effective, hein, entre chrétiens et juifs. En même temps, si vous voulez, il faut être attention à cet aspect-là, et en même temps, il faut être attentif à une catégorie qu'on découvre de plus en plus dans la Bible, enfin d'un point de vue exégétique, qu'on appelle le procès prophétique, parce que ce sont les prophètes qui l'ont mis en œuvre, le rive ou rib, hein, ribou, hein, autrement dit, si vous voulez, c'est un type de procès qui s'entend, qui se comprend dans un milieu familial, où une personne de la famille interpelle, voyez, quelqu'un à qui on est lié, et qui a commis contre lui une offense. Donc c'est un offensé qui instruit un procès contre un offenseur. Le but n'est pas tant la sanction qui rétablirait la justice, parce que, enfin, vous voyez, mais c'est le but final, c'est vraiment de restaurer le lien entre les deux personnes. Voilà. S'il y avait sanction, surtout si cette sanction était poussée, je dirais, à son maximum, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, une mort, une vie pour une vie, je pourrais être doublement puni. Voilà, hein, c'est l'entité familiale qui doit être préservée, et donc partant, si vous voulez, le souci de restaurer le lien entre les personnes qui ont été, entre lesquelles il y a eu un problème. Donc voilà, on découvre de plus en plus cela, et la manière dont, par exemple, Jésus ou Saint Jean utilisent le terme de juif dans l'Évangile, même si ça ne relève pas uniquement de cela, pourrait être de l'ordre d'un procès prophétique, c'est-à-dire une interpellation à des interlocuteurs en raison précisément du lien qui les unit à Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui. Voilà, donc, c'est-à-dire en valorisant le choix, l'élection, et la relation qui est née de cette élection, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Ce qui est en définitive, par exemple, ouvrez le livre d'Isaïe, c'est un peu ça, ça commence par un grand procès prophétique où Isaïe dit au nom de Dieu, j'ai élevé deux fils et ils se sont retournés contre moi. Donc vous voyez, on souligne une qualité et je dirais la défaillance par rapport à cette qualité, le but n'étant pas de condamner, mais précisément d'amener les fils à reconnaissance de la faute, et partant, cette reconnaissance de la faute étant la condition nécessaire pour qu'un lien soit restauré. Et donc, de la même manière, dans l'évangile de Jean, vous voyez, souligner cette qualité juive, cette judéité, c'est de faire appel précisément à cette relation qui existe avec Dieu et que Dieu cherche à restaurer. Donc un procès retourné.
C'est ça.
Ça va ? Bon, écoutez, bon courage. Ne commettez pas d'adultère en revenant sur eux.
Voilà. La prochaine,
je ne sais plus exactement quand c'est.